Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens de ce mardi 19 décembre 2017. C'est Hélène Denis qui vous retrouve et qui en profite pour saluer et remercier surtout François Brodeur qui a été là vendredi dernier ainsi que lundi. Merci François et joyeuses fêtes. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Alors, j'étais en train de me demander qui était derrière la fenêtre parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas collaboré ensemble. Ça me fait plaisir de vous retrouver.
Et je suis bien content d'être de retour pour cette première et dernière participation derrière la console pour ma part en décembre.
Oui, il faut dire que vous n'êtes pas du tout en vacances. Vous travaillez très, très fort sur la programmation du temps des fêtes.
Absolument. Le Père Noël m'a réquisitionné pour vous offrir une programmation qui ne sera pas composée de silence radio pendant les prochaines semaines.
Non, parce qu'il faut dire qu'on fait relâche, en tout cas, pour ce qui concerne les émissions en direct, jusqu'au 2 janvier.
En effet, les studios de Vusebois sont fermés à compter de ce vendredi, le 22, et nous rouvrons boutique le 3 janvier. Donc, entre-temps, vous allez pouvoir entendre une multitude d'émissions et de sélections musicales soignées pour les festivités.
Oui, alors on va être à l'écoute. Et on est à l'écoute de vos éphémérides, Jean-Sébastien.
En ce 19 décembre, faut-il le rappeler, 12 jours avant la fin de l'année 2017, déjà 2018, qui approche dans 13 jours. Événement marquant pour ce 19 décembre, d'abord en 1154, couronnement d'Henri II d'Angleterre. 1846, un premier échange télégraphique a lieu au Canada entre Toronto et Hamilton. 1916, fin de la bataille de Verdun. 19 décembre 1917, les premiers matchs de la Ligue nationale de hockey sont disputés à Montréal et à Ottawa. Pour ce qui est du score, donc, il y avait deux équipes de Montréal, qui explique un petit peu mon hésitation. Donc, un match à Montréal, un match à Ottawa. Le Canadien a battu Ottawa 7-4, mais il y avait donc un autre match avec une autre équipe, les Wanderers, c'est-à-dire les Vagabonds, les Wanderers également de Montréal. Qui affrontaient, eux, les Bulldogs de Québec, je crois.
Donc, les Bulldogs de Québec.
Oui, donc, autres équipes de hockey. 1972, toujours un 19 décembre, le retour sur Terre d'Apollo 17 met un terme à l'exploration de la Lune par les Américains, quoique on sait que les instances gouvernementales se préparent à réinvestir pour aller dans l'espace. 1975, la juge Bertha Wilson est la première femme nommée à la Cour suprême du Canada. 19 décembre 1977, le Canada stoppe tout appui au commerce avec l'Afrique du Sud, pays de l'apartheid raciste. En 1984, l'Angleterre rend Hong Kong à la Chine. Signe un accord pour rendre Hong Kong à la Chine qui entrera en vigueur en 1997. 1986, des étudiants manifestent à Shanghai pour la démocratie. En 1997, encore un 19 décembre, inauguration au Louvre à Paris de 10 000 mètres carrés de salles réaménagées vouées aux antiquités égyptiennes, oui. 1997, sortie du film Titanic de James Cameron. On en a parlé quand même abondamment dans les médias dans les précédentes semaines.
Oui, les 20 ans, il faut souligner ça. Déjà 20 ans.
Pendant longtemps, le film le plus coûteux de l'histoire du cinéma, mais maintenant, il y a quelques mois, il était en 27e position avec un modeste coût de 200 millions de dollars américains.
Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que James Cameron avait dit lorsqu'il avait remporté l'Oscar du meilleur film?
Absolument pas.
I'm the king of the world. Et le réalisateur aussi. Il avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur.
Alors, 1998, scandale pour parjure et obstruction à la justice dans l'affaire Monica Lewinsky. Bill Clinton est mis en accusation par la Chambre des représentants, donc un impeachment. Le Sénat acquittera le président le 12 février. Un autre scandale en 2000, cette fois à Québec, la loi des fusions municipales est adoptée, unifiant plusieurs municipalités, entre autres ici l'île de Montréal, qui sera une ville, on s'en rappelle. En 2000 également, 19 décembre, la maison Cynard doit rembourser 18 millions au fisc fédéral et québécois pour avantages obtenus indûment. En 2005, la population mondiale franchit symboliquement le seuil des 6 milliards et demi d'individus. Et en 2009, Jean-Paul II fait un pas sur le chemin de la sainteté après la signature par le pape Benoît XVI d'un décret attestant des vertus héroïques de son prédécesseur, qui est, il faut le noter, un préalable à la béatification. Anniversaire, décès en 1996 de l'acteur italien Marcello Mastroianni, lui qui est né en 1924. Et finalement, 19 décembre, c'est l'anniversaire de naissance, elle qui est née en 1915, de Giovanna Gassion, Madame Édith Piaf.
Ah oui, et Giovanna Gassion, je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça.
Et c'est tout pour moi aujourd'hui.
Merci Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
À la une de la presse d'aujourd'hui, Plante débranche la Formule E. L'aventure est terminée, mais la facture de Le Prix de Montréal, qui pourrait atteindre 47 millions, est loin d'être réglée. Et à ce sujet, la chronique de Patrick Lagacé, la patente à gosse qui fait vroom vroom. Bye bye tomate, bonjour pote, un cultivateur de Mirabelle fait le grand saut et il n'est pas le seul. Et Boisvert en Catalogne, Barcelone, raconté par le Ricardo Catalan. REM, un exproprié relance la bataille devant les tribunaux. La chronique de Marc Cassivi, coup de gueule, tout le monde est un frileux, marque la brèche sur Salvaille, Roson et une année éprouvante. La brève aventure de Montréal dans la Formule E pourrait coûter jusqu'à 47 millions aux Montréalais, l'édition 2017 s'étant soldée par un important déficit et des pénalités risquant d'être imposées pour l'annulation de l'événement. Mais devant les coûts plus importants encore pour maintenir la course en vie, la mairesse Valérie Plante a jugé préférable de mettre fin à ce qu'elle n'hésite pas à qualifier de fiasco financier. Allons-y donc avec la chronique de Patrick Lagacé, la patente à gosse qui fait vroom vroom. L'image qui me vient en tête pour qualifier le deal qui a amené la formule électrique à Montréal est la suivante, patente à gosse. La Ville de Montréal de Denis Coderre a créé un organisme à but non lucratif, OBNL, pour officialiser l'entente avec la formule E opération, FEO, OBNL du nom poétique de Montréal C'est électrique, MCE. Désolé pour l'abondance de sigles. Créer un OBNL pour y pomper des fonds publics est un vieux truc utilisé par nombre d'administrations publiques. Denis Coderre ne l'a pas inventé. Montréal l'a fait pour le 375e, Québec l'a fait pour le 400e anniversaire et le gouvernement du Québec l'a fait pour la promotion du Québec comme destination touristique. L'avantage, un OBNL n'est pas soumis à la loi sur l'accès à l'information, notamment, contrairement à la Ville de Montréal, à une société d'État ou à un ministère. On peut dépenser du fric sans se faire emmerder en temps réel par des obligations de transparence. La Ville de Montréal de Denis Coderre a donc créé Montréal C'est électrique. La drôlerie, c'est que Montréal C'est électrique n'existait pas dans les deux années où Denis Coderre, flanqué du promoteur Evenco, selon TVA, a négocié avec les bonzes de la Formule E pour que Montréal obtienne une course de FE. C'était écrit en toutes lettres hier dans le communiqué publié par Montréal C'est électrique. Le contrat avec la FEO a été négocié par le cabinet du maire en collaboration avec les avocats de la ville. MCE, Montréal C'est électrique, a été créé et impliqué à la toute fin du processus, une semaine seulement avant l'annonce de la tenue de l'événement à Montréal. En tout, la Ville de Montréal aurait pompé 24 millions dans la Formule E, dont une grande partie en subvention à la coquille vide Montréal C'est électrique, à qui elle a aussi consenti une marge de crédit de 10 millions, marge de crédit qui a été presque entièrement utilisée par MCE pour payer ses fournisseurs. Denis Coderre, alors maire, a donc lancé des millions à Montréal C'est électrique qui, comme par magie, a embauché Evenco comme promoteur de l'événement sans appel d'offres. Mais soyons clairs, sans la Ville de Montréal, sans le cash des contribuables montréalais, il n'y a pas de Montréal C'est électrique, parce que MCE et Evenco n'ont généré que 3,5 millions de revenus autonomes. Survient alors le fiasco de l'an 1 de la Formule E. La communication ultra déficiente, la colère des commerçants et des résidents riverains du site de course, la saga de l'opacité sur le nombre exact de billets vendus, la pensée magique liant une course de voitures à un faux engouement pour l'achat de véhicules électriques par les citoyens. Ce fiasco en est venu à définir Denis Coderre, le maire, l'opacité et l'arrogance. Ce fut son Waterloo. Il était clair dès la fin de l'événement que si Valérie Plante était élue, les deux dernières années du contrat liant Montréal à la Formule E étaient en danger. Et Mme Plante a été élue. Et on a appris récemment que le bureau de l'inspecteur général enquêtait sur les pratiques de Montréal C'est électrique, de même que le vérificateur général de la ville. Puis, pardonnez le jeu de mots, Valérie Plante a annoncé qu'elle tirait la plug sur l'aventure de cette série naissante. Malgré des dizaines de millions en fonds publics montréalais, Montréal C'est électrique a, théoriquement, encore des engagements de près de 20 millions à payer. Près de 10 millions US en droits de course pour 2018 et 2019, 6,5 millions canadiens de dettes pour l'édition 2017. Je dis théoriquement parce que Montréal, c'est électrique, n'a plus une scène. La coquille vide, MCE, va sans doute faire faillite. Et la Formule E opération risque alors de se tourner vers la Ville de Montréal pour réclamer son dû. Après tout, la FEO pourra plaider que c'est avec Denis Coderre qu'elle a organisé la venue de la Formule E à Montréal, pas avec Montréal, c'est électrique, créé une semaine avant l'annonce officielle. Que c'est avec les avocats de la ville que le contrat a été négocié. C'est donc sur les conseils de ces mêmes avocats de la ville de Montréal que la mairesse Plante a dû dire aux journalistes qu'elle ne savait pas combien il faudrait payer au boss de la FE en guise de compensation pour l'annulation des courses de 2018 et 2019. Madame Plante a une idée de la somme, mais il vaut mieux ne pas en parler parce que tout ce qu'elle dira publiquement pourra être utilisé en cour contre la ville de Montréal qui a créé cette coquille vide qu'est Montréal, c'est électrique. Permettez que je résume la saga de la visite de la Formule E à Montréal. Ce fut bon pour tous ceux qui gravitent autour de la Formule E, les constructeurs et les dirigeants de la FEO, ainsi que leurs employés. Ce fut bon pour les Québécois qui ont eu des billets gratuits donnés généreusement. Ce fut moins bon pour ceux qui ont payé leurs billets. Ce fut bon pour Evenco. Ce ne fut pas bon pour les contribuables montréalais qui ont casqué 34 millions pour une patente à gosse qui a encore pour à peu près 20 millions de dettes. Vroom vroom. Alors, il y avait un astérix à côté de vroom vroom et à côté de l'astérix, on peut lire « Je sais que ça ne fait pas vraiment vroom vroom ». Les libéraux fédéraux reportent une fois de plus l'échéance qu'ils s'étaient fixée pour décider s'ils rétabliront ou non la livraison du courrier à domicile pour des milliers de Canadiens. Les libéraux disaient vouloir prendre une décision sur cette question avant la fin de 2017 dans la foulée d'une révision du mandat de poste Canada. L'ancienne ministre des Services publics et de l'approvisionnement, Judy Foote, avait initialement l'intention de rendre une décision au printemps. Mais cette échéance est arrivée et les libéraux ont affirmé avoir besoin de plus de temps pour examiner deux rapports sur l'avenir de Poste Canada, l'un provenant d'un groupe de travail et l'autre du comité permanent des opérations gouvernementales de la Chambre des communes. Les deux documents avaient été finalisés à la fin de 2016. Maintenant, le gouvernement souhaite prendre une décision à une date indéterminée en 2018, a indiqué la porte-parole de la ministre actuelle, Carla Caltrow.
J'ai vu maman embrasser le Père Noël, version Les Bébés sur Canal M.
À la une du Devoir de ce mardi 19 décembre 2017, déraillement spectaculaire et photo spectaculaire aussi, un train à grande vitesse qui inaugurait une nouvelle voie ferrée dans l'État de Washington a déraillé sur un pont ferroviaire, certains des wagons plongeant sur des véhicules qui circulaient sur l'autoroute juste en dessous. Au moins 3 personnes sont mortes et une centaine d'autres ont été blessées. Immigration, le Canada s'ouvrirait aux handicapés. Les provinces sont divisées sur l'abolition possible d'une clause que certains jugent discriminatoire. Catalogne, une campagne électorale surréaliste avec un candidat en exil et un autre en prison. La campagne catalane ne fait même plus rire les humoristes. Bande dessinée Anki Bilal et le Bug de l'an 2041. Le BDiste ouvre un nouveau cycle dystopique sur fond de planète dénumérisée. Alors, on voit une page de cette BD. Deux personnages, un qui dit « Et la tache bleue au-dessus de l'œil, vous l'avez depuis longtemps? » L'autre personnage répond « Quelle tache? » Économie à la défense de Bombardier, Ottawa a témoigné en faveur de la C-Series lundi devant un tribunal commercial américain. Montréal laisse tomber la compétition de Formule E. CSDM, 6 garderies pourraient se retrouver à la rue. Texte d'Hélène Buzetti, le Canada devrait-il encore exercer une discrimination médicale dans le choix de ses futurs immigrants? Un comité de députés à Ottawa estime que non et demande au gouvernement fédéral de cesser d'interdire l'accès au territoire à des gens atteints d'un handicap avec pour seul motif qu'ils représenteraient, entre guillemets, un fardeau excessif. Les provinces, elles, sont partagées. La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés interdit l'accueil d'immigrants s'ils sont susceptibles d'engendrer des coûts élevés en soins de santé ou en services sociaux. Le seuil retenu équivaut à la somme moyenne consacrée. Le seuil retenu équivaut à la somme moyenne consacrée pour chaque Canadien, soit 33 275 $ par période de 5 ans ou 6 655 $ par année. Si le gouvernement estime que la condition d'une personne entraînera des frais supérieurs à ces montants, cette personne est refusée. Le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration à majorité libérale conclut dans un rapport déposé la semaine dernière que cela n'est pas en phase avec les valeurs canadiennes. Le comité recommande d'abroger cette clause. Une campagne très normale, proclame la une d'un magazine humoristique qui s'affiche dans tous les kiosques de Barcelone. On y voit les candidats réunis pour un débat télévisé. Lorsque le dernier participant arrive enfin, il est enchaîné, menotté et transporté par des gardes civils. À moins de 3 jours des élections législatives anticipées de Catalogne, la campagne très serrée qui s'achèvera jeudi n'est pas loin de ressembler à cette caricature. Jamais n'avait-on vu dans l'Europe contemporaine un candidat faire campagne depuis une cellule de prison, comme c'est le cas d'Oriol Junqueras, ancien président de Catalogne et tête de liste d'un des 2 grands partis indépendantistes catalans, Esquerra Republicana. Sans compter l'ancien président catalan qui dirige l'autre grand parti indépendantiste, Junts per Catalunya, et qui fait campagne de Bruxelles où il est en exil. Ce qui ne l'empêche cependant pas de s'adresser chaque soir aux Catalans à la télévision, contrairement à Junqueras ou Junqueras, qui doit se contenter de faire lire ses lettres manuscrites dans les assemblées du parti où chaque fois une chaise symbolique reste vide en signe de solidarité. Selon la juriste Merche Bercelot, qui enseigne à l'Université autonome de Barcelone, l'Union européenne s'intéresse à la Hongrie et à la Pologne, mais elle devrait aussi se préoccuper de la séparation des pouvoirs en Espagne, où l'on a tourné la page du franquisme sans complètement fermer la porte. C'est ce qu'a mis en évidence le référendum catalan. Cette campagne électorale se déroule dans un climat d'illégalité sans pareil, dit-elle. Avec plus de 500 juristes, Merche Bercelot s'apprête à adresser à l'ONU une liste de plusieurs centaines d'infractions à la loi et à la Constitution espagnole recensées par les experts. Mais elle craint que l'élection de jeudi, qui pourrait se solder par un match nul, tant l'électorat est coupé en deux, ne mette pas fin à la tutelle. Le président Rajoy a en effet déclaré que si les indépendantistes étaient reportés au pouvoir, il pourrait la maintenir en tout ou en partie. Six CPE risquent de se retrouver à la rue. La commission scolaire autoriserait mercredi la vente de 12 immeubles. L'année 2017 prend fin dans l'incertitude pour une douzaine de groupes communautaires, dont six centres de la petite enfance, CPE, logés dans des locaux appartenant à la commission scolaire de Montréal. Selon ce que Le Devoir a appris, la plus grande commission scolaire du Québec s'apprête à donner le feu vert à la vente de 12 de ces immeubles où logent une série d'organismes sans but lucratif. Nos sources indiquent que ces revenus doivent servir à financer une partie des coûts du déménagement prévu du siège social de la CSDM qui est contaminée aux moisissures. C'est la survie du CPE qui est en jeu. Sur le plateau, il est impossible de trouver un autre local où nous loger, dit France Quentin, directrice du CPE Soleil du quartier, établie depuis 1991 dans un immeuble de la CSDM boulevard Saint-Joseph-Est. Cette garderie est une véritable institution du plateau Mont-Royal. Des représentants du CPE Soleil du quartier et de cinq autres garderies logées dans des bâtiments dont la CSDM compte se départir iront plaider leur cause au Conseil des commissaires mercredi. L'ancien chef du nouveau Parti démocratique, Thomas Mulcair, quittera son poste de député montréalais au printemps. Un porte-parole du parti a confirmé que M. Mulcair prévoyait démissionner après la session parlementaire du printemps. La date sera confirmée ultérieurement, a-t-il dit. Il devrait être embauché comme professeur dans une université, mais le nom de l'établissement n'a pas encore été dévoilé. Le départ de M. Mulcair devrait entraîner une chaude lutte électorale dans Outremont, puisque les libéraux voudront probablement regagner leur ancien bastion. Le gouvernement fédéral a publié dans la Gazette officielle un règlement qui prévoit l'instauration d'un système de surveillance pan-canadien afin d'assurer un suivi sur l'aide médicale à mourir dans toutes les provinces. Les Canadiens ont 60 jours pour s'exprimer en ligne sur ce règlement qui permettra de savoir le nombre de demandes reçues, le nombre de décès attribuables à l'aide médicale à mourir, ainsi que le nombre de personnes jugées admissibles et leur profil. La fermeture de Sears, la nouvelle économique qui a le plus marqué les Canadiens en 2017. La fermeture de la chaîne a provoqué son lot de controverses. D'abord, Sears Canada a choisi de distribuer des primes de rétention à ses cadres, alors que l'entreprise est aux prises avec un déficit de plus de 260 millions dans son régime de pension. Plus tard, le Bureau de la concurrence a ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles Sears Canada aurait gonflé ses prix avant le début de sa vente de liquidation. Cette fermeture hautement médiatisée et les controverses qui s'en sont suivies ont contribué à faire de Sears Canada la nouvelle économique de l'année 2017, récoltant 47 % du vote des journalistes spécialisés en affaires dans le sondage annuel effectué par la presse canadienne auprès des salles de presse du pays. Pour plusieurs Canadiens, Sears est plus qu'un magasin. C'est une institution, a dit Alan Schiffman, rédacteur en chef chez Yahoo Canada Finance. « Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui lit les journaux pour vous avec grand plaisir. Restez avec nous dans un petit moment. Je poursuis avec la revue de presse du Journal de Montréal.
La famille a les yeux qui brillent. Chacun regarde, s'émerveiller s'attarde.
Sur sa page préférée, oh, ils nous font tant rêver. Les catalogues Eaton, Simpsons et Morgan.
J'ai réparé l'habit de Père Noël, préparé les saucisses à cocktail.
On voyait les invitations pour le réveillon. Acheter hands down, Tippett et Kerplunk.
C'est Noël et on se donne. Oui, on se donne, donne, ding, dong. À fond la caisse et swing la caisse. Swinging a ling, a ling, a long. La langue à terre sur la place Saint-Hubert. Avant que les cloches ne sonnent, on achète à la tonne des bebelles que l'on donne. Donne, donne, ding, dong.
On se fera Noël moderne, j'ai vu ça dans mon châtelaine.
Où yamble la tourtière, la dinde et la bière. On se fait un menu hawaïen, des drinks polynésiens.
On va jeter la crèche aux poubelles et adopter des idées nouvelles.
Un sapin argenté, c'est dans l'air du temps. Ça peut pas se démoder, on l'aura pour 30 ans.
C'est Noël. Oui, on se donne, donne, ding, dong. À fond la caisse et swing la baquette. Swing a ling, a ling, a long. La langue à terre sur la place à Saint-Hubert. Avant que les cloches ne sonnent, on achète à la tonne des bebelles que l'on donne. Donne, donne, ding, dong.
Adieu la messe, tout le monde dans le sous-sol. Sûrement que maman nous dira qu'on est devenu folle.
Mais quand le beau Paul va nous jouer un petit air sur son orgue électrique, avec du trémolo, oh c'est si romantique, elle va sûrement.
On se donne, donne, ding, dong. À fond la caisse et swing la baquette. Swinging, a linging, a ling, a long. Et pour ne pas devenir baquette, ne pas perdre la ligne, ling, ding. Étouffé dans nos playtex, 18 heures. On retourne le 8 janvier à nos soirées.
Un petit peu d'humour ce matin avec C'est Noël et son On se donne. C'est par le duo Les Galipos. Les Galipos qui est composé de Sylvie Dumontier et Chantal Lamarre.
En une du Journal de Montréal, la formule électrique, c'est fini. 1,2 million pour deux parties VIP. En annulant la course hier, l'équipe de la mairesse Plante a fait des révélations troublantes sur les dépenses de l'organisation, incluant cette robe alcoolisée. Alors, on voit justement une dame sortir... ça ressemble à une tour remplie de verres à champagne, j'imagine. C'est assez spectaculaire. José Legault signe une chronique intitulée « Une aventure mort-née ». « Les fumeurs de pot sont plus vieux qu'on le pense. Drouin veut rebondir. On parle de hockey ici et du Canadien de Montréal. Somptueux party pour la FE. Alors, il y a des photos. Le gala de clôture de la saison de la Formule E a eu lieu le 31 juillet au New City Gas à Montréal en présence des dirigeants du circuit et des pilotes. Ci-contre, le responsable du transport au comité exécutif dans l'administration Coderre, Aref Salem, a publié sur Facebook une photo de sa présence à la soirée où on le voit avec une femme qui porte justement une robe distributrice d'alcool. Rien n'indique toutefois que M. Salem soit lié au fiasco de l'événement. Notre bureau d'enquête a appris que ce sont les contribuables montréalais qui risquent de ramasser la majeure partie de cette facture. Un de ces événements était le gala de clôture de l'année pour les pilotes. Il a eu lieu au New City Gas et réunissait la crème de la FE, des élus et quelques vedettes. L'autre événement VIP, le Emotion Club, a accueilli les spectateurs plus nantis durant la course. On y trouvait du champagne à volonté, un menu gastronomique et une performance de DJ. Le directeur général de Montréal City Electric, MCE, Simon Pilarella, a fait savoir auprès de notre bureau d'enquête que ces deux réceptions faisaient partie des obligations au contrat pour accueillir la finale du championnat. Selon lui, elles avaient été négociées par le cabinet de l'ex-maire Denis Coderre. Selon MCE, le cabinet de l'ex-maire Denis Coderre s'était engagé à trouver 11,5 millions en subventions gouvernementales pour l'événement, mais n'a finalement livré que 3,45 millions. Rappelons que la Ville de Montréal a investi 24 millions en plus d'offrir une caution de 10 millions aux organisateurs, qui a été presque entièrement utilisée à ce jour. Une scène digne du film Slapshot. Les joueurs qui se sont battus avec un partisan dans un aréna de la Côte-Nord pourraient être suspendus à vie. L'heure était au mea culpa hier après les scènes disgracieuses du week-end. Le directeur général de l'équipe de la Haute-Côte-Nord, Stéphane Gaudreau, assure qu'il augmentera le nombre d'agents de sécurité présents durant les matchs. Les bières seront maintenant servies dans des verres plutôt que dans des canettes. Cela en fera des projectiles moins dangereux. Les deux équipes pourraient également être mises à l'amende. Il n'est pas exagéré de comparer les gestes de Samuel Gagnon, Jean-Christophe Penneau et Félix Giroux à ceux des célèbres frères Hanson dans le film Slapshot. Vendredi soir, dans un match opposant le MGR Express de Jonquière à l'excavation à Savard de Haute-Côte-Nord à Forestville, les trois joueurs sont montés dans les estrades pour s'en prendre à un spectateur qui venait de lancer une canette de bière. Les trois joueurs étaient alors torse nu puisqu'ils avaient déjà été expulsés du match. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on les voit s'en prendre violemment à un spectateur pendant une vingtaine de secondes. Kevin Charret, un joueur de l'excavation A, Savard de Haute-Côte-Nord, qui n'était pas en uniforme, a aussi participé à la bagarre. Le président de la Ligue de hockey senior du fleuve, Mathieu Caron, a suspendu les quatre joueurs pour une durée indéterminée hier, mais a brandi la menace de les suspendre à vie après leur comparution devant le comité de discipline. Jasmin Roy en croisade contre la cyber-intimidation, une nouvelle campagne lancée sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Dès aujourd'hui, des photos représentant des adolescents consultant leur téléphone seront publiées sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Avec cette image, nous voulons démontrer que parfois, ça n'a pas l'air aussi grave parce que ça se passe sur le web, mais l'impact est là, mentionne M. Roy, précisant que l'ombre de la main avec laquelle les adolescents tiennent leur téléphone crée l'ombrage de l'agression, parfois sexuelle, dont ils sont victimes. Selon la chaire de recherche en sécurité et violence en milieu éducatif, 95,7% des élèves du secondaire disent avoir accès sans surveillance à Internet à la maison et que 52,7% y ont accès librement sans surveillance à l'école. des données très inquiétantes, selon Jasmer Roy, qui mentionne que les parents ont aussi leur rôle à jouer. C'est l'occasion pour les parents d'en parler avec leurs jeunes autour d'un bon repas, dans le temps des fêtes, de dire quels sont les comportements inadéquats sur le web. Qu'est-ce qu'un comportement égalitaire, indique le président de la Fondation portant son nom, qui lutte contre l'intimidation. Les serres Stéphane Bertrand Inc. transformeront leurs 700 000 pieds carrés de serres situées à Mirabel pour produire du pot thérapeutique plutôt que des tomates. L'entreprise s'associe au plus important producteur canadien Canopy Ground Corporation pour créer une nouvelle société qui porte le nom de Les Serres Vert Cannabis Inc. L'entreprise prévoit que ses revenus provenant de ces serres passeront de 10 à 100 millions grâce à cette décision. Le changement de vocation va permettre l'embauche de 30 employés supplémentaires. La compagnie nouvellement créée croit pouvoir fournir 40 % du cannabis thérapeutique de la province avec cette seule installation. L'agriculteur n'exclut pas de produire du pot récréatif quand il sera légalisé en juillet prochain. Stéphane Bertrand a transporté sa production de tomates roses à ses installations de la Noraie. La transformation de la serre nécessitera un investissement de 15 millions de dollars pour modifier les installations actuelles. La production pourrait débuter en avril 2018, dès que Santé Canada aura donné son approbation. Et justement, les fumeurs de pot vieillissent. La génération des baby boomers qui a découvert le pot dans sa jeunesse en a gardé le goût. Le visage des fumeurs de pot a bien changé. Le quart du cannabis au Canada est dorénavant consommé par des boomers de plus de 45 ans, alors que la part des jeunes ne cesse de diminuer. Un père de famille de 68 ans a péri dans l'incendie de sa résidence hier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Souffrant d'obésité, Marcel Savard avait de la difficulté à se déplacer selon des voisins. L'homme qui vivait seul avait aussi un problème d'accumulation compulsive, si bien qu'il était difficile de circuler dans sa maison mobile de la rue de la Nacelle. Ces deux éléments pourraient expliquer pourquoi il est demeuré à l'intérieur lorsque les flammes ont pris naissance peu après minuit. Le congé de taxes pour les entreprises qui font bouger leurs employés proposé par Pierre Lavoie reçoit des appuis tant des patrons que des travailleurs. L'idée, à coût nul pour les employeurs, a reçu l'appui du Conseil du patronat du Québec. Dans une lettre, son PDG Yves-Thomas Dorval souligne d'ailleurs que cette modification pourrait s'inscrire dans la réforme de la politique travail-famille sur laquelle planche un comité ministériel à Québec. La Fédération des chambres de commerce du Québec estime, elle aussi, que ce virage vers une économie de la prévention est souhaitable. C'est une excellente idée parce que ça n'irait pas juste dans le fonds consolidé et on travaillerait sur la prévention, pas juste sur le curatif, affirme de son côté le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux. Le cabinet du ministre des Finances, Carlos Letao, n'a pas souhaité commenter. Cinquante ans après sa tenue, le gouvernement du Québec a officiellement reconnu hier l'Exposition universelle de Montréal, ou Expo 67, comme événement historique. Cette grande manifestation a non seulement permis au monde de découvrir le Québec moderne, mais elle a également permis aux Québécoises et aux Québécois de renouveler leur propre regard sur le monde, a expliqué la ministre de la Culture, Marie Montpetit, par communiqué. La loi sur le patrimoine culturel permet à la ministre de la Culture et des Communications de désigner des personnages, des événements et des lieux historiques. Cette reconnaissance permettra à Expo 67 de conserver sa place dans la mémoire collective, a précisé le gouvernement Couillard.
I really can't stay. The answer is no.
Oh, baby, it's cold outside.
The welcome has been.
I'm lucky that you dropped
so
in.
So nice and warm.
Look out the window at that big
My
storm.
My sister will be suspicious.
Man, your lips look so delicious.
My brother will be there at the
Waves
door.
Waves upon a tropical shore.
My maiden aunt's mind is
Did
vicious.
Did I mention that your lips look delicious?
Well, maybe just a cigarette more.
Never such a blizzard before.
Got to get home.
Oh, baby, you'll freeze out there.
Please lend me a comb.
Oh, it's up to your knees out there.
You've really been grand.
Yeah.
Baby, it's cold outside. Et c'est vrai qu'il fait froid à l'extérieur. On vient d'entendre ce classique interprété par Colin James et The Little Big Orchestra Band, accompagné de Roxane Potvin.
Les journaux régionaux dans le Nouvel East. Premier coup de patin à la patinoire du CH. Les amateurs de patinage et de hockey de Trois-Rivières peuvent maintenant profiter de la toute nouvelle patinoire réfrigérée aménagée par la Fondation des Canadiens pour l'enfance. La patinoire bleu-blanc-rouge est située à l'arrière de l'école primaire Cardinal Roy. Elle a ouvert lundi en fin d'après-midi, soit un an après l'annonce de ce projet par la Fondation du Club de hockey montréalais. La Fondation a investi 1,4 million de dollars dans ce projet visant à construire une patinoire réfrigérée, alors que la Ville de Trois-Rivières a consacré environ 1 million de dollars pour aménager un pavillon d'accueil et pour acquérir une resurfaceuse. Le projet a été réalisé en respectant les budgets adoptés et l'échéancier fixé, mentionne Yvan Toutant, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières. La Fondation des Canadiens pour l'enfance vise à faire bouger les jeunes avec ce genre de patinoire dont le système réfrigéré permet d'étirer la durée de la saison des patinoires extérieures. Voilà pourquoi l'argent fourni par la Fondation a aussi servi à acheter une centaine de paires de patins, de bâtons et de casques. Les enfants qui n'ont pas l'équipement pour jouer au hockey sur une patinoire de quartier pourront emprunter celui-ci pour bouger et avoir du plaisir avec leurs amis. Les patins, les bâtons de hockey et les casques pourront être réservés par des jeunes. Et avec une patinoire réfrigérée, si on est confronté à des épisodes de pluie, on peut la rouvrir plus rapidement comparativement à nos glaces naturelles, ajoute M. Toutant. La Ville de Trois-Rivières a signé une entente d'un an avec le centre sportif Alphonse Desjardins qui s'occupe de l'entretien et de la surveillance des lieux. Restons dans le hockey. Jean Béliveau brise la glace, c'est dans le soleil, Jean-François Néron. Dès l'automne, la place Jean Béliveau près du Centre Vidéotron accueillera sa première de cinq œuvres qui mettront en valeur cinq grandes périodes de l'histoire du hockey à Québec. À tout seigneur, tout honneur, c'est une sculpture du Gros Bill qui, la première, occupera les lieux. Briser la glace, une sculpture d'aluminium représentant un Jean Béliveau de 25 pieds de hauteur, sera installée en l'honneur de l'époque des As de Québec. Il s'agit d'une création dite anamorphique, c'est-à-dire que sa forme change selon l'angle d'observation. Le célèbre numéro 9 se dévoilera à tout spectateur qui se tient debout sur une rondelle de 45 pouces imbriquée au sol. C'était un sujet délicat à traiter, reconnaît le sculpteur Éric Lapointe. Quand m'est arrivé de pouvoir personnifier cette légende, j'ai mixé la représentation du joueur dans la glace, explique-t-il. Pour donner l'impression que l'illustre personnage ne fait qu'un avec la glace, M. Lapointe effectue des tests sur l'aluminium pour lui donner la couleur bleutée qui la caractérise. Cette première sculpture sera installée à l'automne 2018. Les quatre autres suivront de 2019 à 2022. Chacune représentera quatre autres périodes du hockey. Les Bulldogs, les Remparts, les Nordiques à l'époque de l'Association mondiale de hockey et les Nordiques à l'époque de la Ligue nationale. Déjà des glaces sur la baie des AA, c'est Denis Villeneuve dans le quotidien. La période de froid qui se prolonge au Saguenay depuis la semaine dernière réjouit les pêcheurs sur glace de la baie des AA, eux qui espèrent procéder à l'embarquement de leur cabane un peu plus tôt que par les années passées. Le commerçant Rémi Aubin fait partie de ceux qui ont le sourire. Il souhaite que Dame Nature continue sur sa lancée puisqu'au dire des résidents demeurant sur la rive du Saguenay, le gel des eaux survient beaucoup plus hâtivement que les hivers passés, puisqu'il est plutôt rare que la baie soit prise avant la période des fêtes. C'est le cas dans le secteur de l'Anse au Billot. Des discussions entre M. Aubin et des travailleurs œuvrant aux opérations du port laissent croire que 3 pouces de glace étaient déjà présents avant la tempête qui a soufflé la semaine dernière, une information qui doit être prise avec précaution, puisque le Saguenay réserve toujours son lot de surprises en raison de grandes variations. En ce qui concerne la tempête, elle a laissé plusieurs centimètres de neige qui a été soufflée par la suite par les grands vents, ce qui est favorable à la glaciation. Du côté de Contact Nature, l'organisme responsable de la gestion de la pêche blanche, le directeur général Marc-André Galbrand, observe que vendredi dernier, un premier brise-glace de pêche et océan Canada a fait son apparition dans la baie des AA, ce qui signifie qu'à certains endroits, une épaisseur de 6 pouces de glace existe. Aucun membre du personnel ou bénévole de Contact Nature n'a encore mesuré dans les deux secteurs de village de pêche. Toutefois, les opérations d'aménagement des embarcadères vers la baie des AA ont débuté avec le transport de neige. Le contrat de déneigement des glaces a été accordé à la firme Pierre-Michel Poulin. Dans la tribune, Marie-Christine Bouchard, 100 nouvelles familles vivant avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle bénéficieront d'un logement abordable, sécuritaire et adapté à leurs besoins d'ici 5 ans en Estrie. Ce projet est évalué à 15 millions de dollars et est le fruit d'un partenariat conclu entre le Fonds immobilier de solidarité, FTQ, et l'organisme à but non lucratif, OBNL, Magagua, en logement. Thank you. Et la chronique de Patrick Duquette dans le droit, la police du cellulaire. En France, le gouvernement veut carrément interdire le téléphone cellulaire dans les écoles et les collèges à compter de la rentrée 2018. Une maudite bonne idée, dites-vous? C'est vrai que l'idée est séduisante sur papier. Plus de téléphones, plus de problèmes. Ah, si la vie était aussi simple. Bien des experts remettent en question la manière forte préconisée par nos cousins français. D'abord parce qu'une interdiction pure et simple du cellulaire à l'école est difficile à mettre en pratique. À partir du moment où les profs n'ont pas le droit de fouiller les élèves, encore moins de leur confisquer un appareil, comment feront-ils pour faire respecter l'interdiction? À supposer bien sûr que les enseignants français aient le goût de jouer à la police du cellulaire. Ce dont je doute, s'ils sont comme les enseignants québécois, ils aiment mieux enseigner. Ensuite, je vois mal nos écoles démoniser un appareil qui fait partie de notre quotidien. Oui, le cellulaire a un côté obscur. Oui, il est une source de distraction importante à l'école. Une étude britannique a même démontré que de bannir le cellulaire à l'école avait pour effet d'améliorer la performance scolaire, surtout chez les élèves en difficulté. En même temps, le cellulaire fait partie intégrante de notre quotidien. Il est là pour de bon. Plutôt que de l'interdire, ne vaut-il pas mieux éduquer les jeunes à l'utiliser? Certains parents verraient d'un bon œil que les écoles fassent la chasse au téléphone cellulaire. Or, soyons honnêtes, bien des jeunes peuvent utiliser leur téléphone intelligent sans restriction à la maison, à toute heure du jour ou de la nuit. Vous me direz que l'école, c'est l'école et que les règles doivent être plus strictes qu'à la maison. Soit, n'empêche que les jeunes trouveront toujours le moyen de contourner les interdictions. Les adolescents, surtout, prennent plaisir à défier les règles. C'est de leur âge. Le plus important, c'est de baliser l'utilisation du cellulaire en salle de classe, comme on le fait déjà dans des écoles du Québec. Après tout, les téléphones intelligents sont également un merveilleux outil d'apprentissage. En quelques clics, on peut faire une recherche en histoire, trouver la définition d'un terme, éclaircir une notion d'éthique ou traduire un mot en anglais. Pourvu que ce ne soit pas pour tricher pendant un examen, il n'y a pas de problème. Je comprends les profs qui ne veulent rien savoir du cellulaire en classe. Il faut beaucoup de doigté et de vigilance pour gérer son utilisation. Et quoi de plus insultant que d'enseigner à des élèves qui ont constamment les yeux rivés sur leurs écrans, à s'envoyer des textos ou à consulter leur profil Facebook. Au primaire et au secondaire, en tout cas, il n'y a aucune raison de tolérer cela. À l'école secondaire de mon fils, le cellulaire est permis, sauf en salle de classe. Si un jeune se fait prendre, son cellulaire est confisqué. Le parent doit venir le réclamer à la direction et c'est parfait ainsi, pas besoin d'une interdiction totale qui obligerait tout le monde à jouer à la police du cellulaire.
Noël s'en vient, maman, le 23, j'arriverai juste à temps. Toujours hâte de te revoir, même si c'est un peu comme regarder dans un miroir. Faut mieux rien faire en arrivant, mais que c'est long en attendant. Y'a pas encore de neige à Montréal le 3 décembre. J'imagine s'en vient bientôt, il reste plus qu'à compter les dodos. J'ai hâte de manger des boulettes, la tourtière et puis des tartelettes. De m'endormir sur le divan, sur un front d'Hélène
et le divin enfant, jouer au bois.
Y'a pas J'imagine les lumières de Noël au coin de porte allumée. J'irai pas au parc Saint-Vital pour réapprendre à patiner. Mais sur la rivière derrière chez nous, je vais m'essayer. Mmh.
ceux qui seront chauds iront patiner pour mieux tomber sur le dos. Ceux qui auront trop bu iront skier pour mieux tomber sur le dos.
Chic Gamine avec Noël au coin de Portage et Maine.
Les actualités culturelles, le Cirque du Soleil rendra hommage à l'univers animé de Walt Disney dans un nouveau spectacle qui sera créé dans environ 2 ans au Walt Disney World Resort d'Orlando, en Floride. Le Cirque a précisé que le spectacle sera inspiré du patrimoine de Disney en matière d'animation. Le théâtre sera complètement rénové. La direction du Cirque a rappelé du même coup la fin de la Numba, présentée dans ce même lieu depuis près de 20 ans. La pièce mise en scène par Franco Dragone sera présentée pour la dernière fois le 31 décembre. La Numba a attiré depuis sa création plus de 11 millions de spectateurs. La critique de la pièce « Enfant insignifiant » de Michel Tremblay, adaptation mise en scène de Michel Poirier, chez Duceppe jusqu'au 3 février. 3 étoiles et demie. C'est Mario Cloutier qui signe le texte dans la presse d'aujourd'hui. Plus drôle, moins abouti. L'adaptation des « Conversations avec un enfant curieux » de Michel Tremblay donne lieu à une pièce plus drôle, mais moins aboutie qu'encore une fois, si vous permettez, chez Duceppe. La nouvelle pièce de Michel Tremblay commence sur les chapeaux de roue. La magnifique scénographie d'Olivier Landreville, des milliers de pages de livres empilées en formant des dunes et un écran géant montrant un ciel et une mer infinie, met la table de formidable façon. Michel Tremblay, Henri Chassé entre parenthèses, est justement assis chez lui à Key West. Il écrit « Les personnages issus de son passé viendront à l'avant-scène aux allures de Boardwalk répondre aux questions de ce grand enfant à la curiosité insatiable. » Les premiers dialogues sont savoureux, rythmés. Michel veut tout savoir et encore plus de sa mère, Nana, de son père, Gabriel, de sa grand-mère, Victoire, de son amie Ginette, de sa maîtresse d'école et de la sœur directrice. Tous et toutes finiront excédés de tant de pourquoi sortant de la bouche de cet enfant brillant. La religion, le cinéma, la sexualité, rien n'échappe à la petite tête effervescente de Michel Tremblay. Des questionnements pertinents, même si parfois il reflète une époque qu'on voudrait révolue. L'essentiel, on le comprend assez vite, c'est que tout l'imaginaire et la théâtralité du grand auteur se trouvent dans la langue, l'intelligence, la truculence de vraies personnes, magnifiques personnages qui ont nourri son œuvre. Les interprètes excellent. Henri Chassé affiche une candeur et une obstination attachante en Michel. Guylaine Tremblay continue de camper une Nana lumineuse. Méconnaissable est Sylvain Marcel dans le rôle du père et suave Daniel Proulx dans celui de la grand-mère. Les autres acteurs de soutien jouent également merveille. Isabelle Drainville dans le rôle d'une maîtresse d'école, Mademoiselle Carly au bord de la crise de nerfs, suscite avec raison des applaudissements chaleureux. Puis le rythme s'essouffle. Difficile de le maintenir pendant 1h50, direz-vous, mais justement les dernières apparitions de la grand-mère et du père nous sont apparus quelque peu superflus. Ainsi, les rires du début s'étiolent et l'émotion n'est pas toujours au rendez-vous par la suite. Plus la pièce avance, plus les liens entre les personnages colorés se relâchent. Peu à peu, les scènes qui s'appelaient l'une l'autre au début deviennent des scénettes sans ligne dramatique. Les personnages entrent et sortent dans un procédé devenu trop répétitif. La fin n'est guère satisfaisante non plus. Jusque-là, majestueuse, Guylaine Tremblay joue à côté de sa nana et l'insistance du texte sur le mot « insignifiant » devient justement insignifiante. Cette pièce n'a pas la force ni l'envergure d'encore une fois, si vous permettez, entièrement dédiée à la figure plus grande que nature de Nana. Ce n'est pas tant l'écriture qui est en cause ici, à notre avis, qu'une adaptation qui aurait demandé un peu plus d'attention. L'humoriste Anthony Cavana a été victime d'une embolie pulmonaire et doit repousser toutes les dates du mois de janvier de sa tournée « Showman ». En Nouvelle-Calédonie, pour un spectacle, Anthony Cavana s'est vu obligé d'annuler cette représentation et la suivante prévue à Tahiti. Son état est stable, mais il doit se reposer durant quelques semaines. L'humoriste doit par ailleurs rester en Nouvelle-Calédonie. Prendre l'avion pourrait lui être fatal, il ne peut pas revenir au Québec, a indiqué son attaché de presse Sylvie Savard. Le Québécois devait être de retour dans la province pour 10 spectacles avant de poursuivre sa tournée en France. Toutes ces représentations sont remises entre les mois de mars et juin. En octobre dernier, alors que les scandales sexuels avaient éclaté dans le milieu culturel, Cavana avait préféré déplacer la première de son spectacle solo. Puis, après ce premier spectacle le 21 novembre, victime d'une bursite septique, d'une cellulite infectieuse et d'un streptocoque du groupe A, l'humoriste avait dû repousser deux représentations prévues à la fin de novembre jusqu'à janvier 2018. Et je poursuis maintenant avec Mathieu Quesnel au ZooFest. Même si Juste pour rire est dans la tourmente, le festival ZooFest prépare sa prochaine édition qui aura lieu du 5 au 28 juillet 2018. Sur la page Facebook du festival, l'équipe annonce que le comédien Mathieu Quesnel, qui a joué dans les films Le règne de la beauté et Le vrai du faux, a été nommé directeur artistique théâtral. T'as une idée de pièce pour 2018? Envoie-lui tes idées au mquesnel@zoofest.com. Point d'exclamation peut-on lire sur la page du ZooFest, qui célébrera ses 10 ans en 2018. Depuis quelques années, l'acteur est un fidèle du festival. Il y a offert son premier spectacle solo en 2016 et animé le cabaret érotique l'été dernier. Interrogé par la presse, le directeur général de ZooFest, Patrick Roson, a dit « Je voulais mieux structurer et innover le volet théâtral. Puisque Mathieu connaît le festival, qu'il est un bon créateur et qu'il est connu dans le milieu théâtral, je trouvais qu'il était la personne parfaite pour ce rôle. » Rappelons que ZooFest met en lumière des artistes émergents en humour, en musique et en théâtre en présentant à son public des projets audacieux. Ed Sheeran est prêt à faire face à la musique si James Bond a besoin de lui. Le populaire artiste a déjà composé une chanson pour la franchise du célèbre agent secret apprend-on du magazine Spin. L'auteur-compositeur-interprète a confié sur le plateau irlandais de l'émission The Late Late Show vendredi dernier que la pièce a été créée il y a environ 3 ans, mais que personne ne lui a encore offert la chance d'associer son nom à une aventure de 007. Cette chanson-thème a été composée au cas où par Ed Sheeran, qui a refusé d'en dévoiler le titre parce que quelqu'un pourrait lui voler. Morse Code est de retour. La formation rock prévoit une série de spectacles un an après le décès du membre fondateur Christian Simard. La formation québécoise Morse Code se prépare à faire un retour sur les planches. Le groupe de rock progressif actif dans les années 70 avec les albums La Marche des Hommes et Procréation avait tiré sa révérence en 1995 après la sortie du disque D'un autre monde. Le nouveau Morse Code réunira les membres originaux, Michel Vallée et Daniel Lemay, le batteur Gilles Simard qui a fait partie du groupe entre les années 1987 et 1990 et en 1995, le claviériste Gilles Greg Baudouin et le chanteur Jean Ravel qui a participé aux comédies musicales Notre-Dame de Paris, Starmania, La Légende de Jimmy et qui est derrière le spectacle Rock Story. Le groupe brisera la glace avec un spectacle d'avant-première le 19 janvier à l'Auditorium Jean-Pierre Tremblay du campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-de-Desmaures à Québec pour ensuite se produire au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke 4 mars, au Jésus à Montréal, 9 mars, et à l'école secondaire d'Orval, Jean 23, le 16 mars. D'autres spectacles pourraient s'ajouter. L'Association québécoise des critiques de théâtre a annoncé hier soir les lauréats de ses prix annuels. J'aime Hydro de Christine Beaulieu a été reconnu comme meilleur spectacle de la saison 2016-2017 sur les planches montréalaises. Avec ses boules de Noël, ses biscuits en forme de sapin, ses infusions d'hibiscus, ses rigodons et ses chansons à répondre, la foirée montréalaise est le parfait party multi-ethnique du temps des fêtes. Pourtant, sur Montréal-Nord, le spectacle fait autant réfléchir qu'il fait rire avec des artistes survoltés et multidisciplinaires, notamment Émilie Gilbert, Philippe Racine, Inès Talbi et Michaël Richard. Une très belle fête de famille, c'est jusqu'au 22 décembre à la Licorne.
Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.
Un autre classique du temps des fêtes, Rocking Around the Christmas Tree, une pièce de 1958, pardon, interprétée par Brenda Lee. Brenda Lee qui était âgée de 13 ans à l'époque de l'enregistrement de cette pièce.
Section libre, segment sujet libre, donc voyage, on est tous propriétaires du château Frontenac. C'est dans le journal de Montréal d'aujourd'hui, sous la plume de Sophie Côté, collaboration du Journal de Québec. Des dizaines d'activités sont organisées pour célébrer les 125 ans de l'hôtel, symbole de la ville. Les Québécois sont invités en 2018 à célébrer et à redécouvrir leur château Frontenac qui fête son 125e anniversaire. Spectacles, expositions, événements spéciaux, des dizaines d'activités ponctueront l'année, sans compter le lancement de suites rendant hommage à de grands visiteurs de l'hôtel, dont Céline Dion. C'est le château des Québécois. C'est un peu comme notre statue de la liberté. Et je veux que les gens soient fiers, qu'ils se sentent les bienvenus. On est tous propriétaires du château Frontenac et nous allons le célébrer ensemble, a insisté hier Robert Mercure, le directeur général de l'hôtel emblématique de Québec, à l'occasion du lancement de la programmation du 125e. Ce dernier a répété que ce lancement n'était qu'un « teaser » entre guillemets des activités prévues pour cet anniversaire. d'autres belles surprises sont à venir. Il y aura des grandes choses, certaines personnalités, des événements en collaboration avec la ville, assez intéressants pour faire rayonner Québec, la destination et le château Frontenac, a glissé prudemment M. Mercure, qui a par ailleurs souligné que la dernière année au plan touristique a été la meilleure dans l'histoire de l'hôtel. Jusqu'à la fin 2018, la terrasse Dufresne, la salle de bal, le restaurant Champlain et les différents salons du château seront le théâtre de multiples activités, parfois payantes, parfois gratuites, culturelles, gastronomiques et historiques. Le Carnaval de Québec, l'Université Laval et l'Orchestre symphonique de Québec font partie des nombreux partenaires. Pour découvrir ou redécouvrir la riche histoire du château, M. Mercure souhaite la présenter de la façon dont les gens et les jeunes veulent la consommer aujourd'hui. « Il faut la rendre sexy », dit-il, rappelant que le château Frontenac, partie prenante de notre patrimoine, est aussi habitué par le modernisme. Parmi les moments forts annoncés, 8 suites héritage seront lancées en avril. Ces suites exécutives rendront hommage à de grands visiteurs du château, soit la reine Élisabeth II, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, William Van Horn, Charles de Gaulle, Alfred Hitchcock, qui a tourné plusieurs scènes de son film « I Confess », Pierre-Éliott Trudeau et Justin Trudeau, thématique père et fils, et Céline Dion, qui a vécu une étape clé de sa carrière à l'hôtel. « Ce sera plus que juste des photos, ça va être une expérience », a promis M. Mercure, expliquant que des musées sont mis à contribution. Un 125e anniversaire qui se fait en grand. Quelques éléments de la programmation. Dès le 24 décembre, fête hivernale à la place Dufresne, ouverture de la patinoire et de la glissoire, party d'ouverture. 25 janvier, le grand gala auquel notamment des journalistes de partout dans le monde seront conviés. En partenariat avec le carnaval, thé des Duchesses le 27 janvier, brunch spectaculaire pour la course en canot le 4 février et une exposition spéciale. Grande fête du printemps en avril, grande fête des récoltes en septembre, plusieurs activités gratuites, portes ouvertes les sites 7 et 8 avril, visites guidées par des personnages historiques tout au long de l'année, plusieurs spectacles et expositions. Tous les détails au châteaufrontenac125.com. Dans la section pause repas, la page bien-être 9 trucs pour énergiser vos journées. Ça ne rate jamais ce petit coup de barre en milieu d'après-midi alors qu'il vous reste pourtant tant de choses à faire avant de boucler votre journée entre vos dossiers au boulot, votre marathon de cadeaux et vos préparatifs en tout genre. Histoire de ne pas arriver épuisé à Noël, voici 9 trucs santé pour énergiser vos journées sans avoir recours à un nombre inavouable de café. C'est une chronique de Sylvia Galipo dans la presse d'aujourd'hui. Surveillez vos dîners. Ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est pourtant fondamental. Plusieurs experts consultés ici l'ont d'ailleurs signalé. Si vous cognez des clous vers 15 heures, peut-être avez-vous à repenser vos dîners. Les grands coupables, les repas trop lourds, avec trop de glucides et de matières grasses et pas assez de protéines, résume le nutritionniste Hubert Cormier. Aux spaghettis carbonara, préférez plutôt une salade et un morceau de saumon, par exemple. Bref, réduisez les féculents et misez sur les œufs durs, le poulet, le thon en boîte et pourquoi pas le houmous. Autre truc pour énergiser vos journées, prenez une pause. Ne mangez pas devant votre ordinateur à midi. Encore moins debout entre deux courses au centre commercial. Vous voulez vous sentir énergisé? Arrêtez-vous pour de vrai, que ce soit pour casser la croûte, jaser avec un ami ou mieux, faire du sport. Faites une pause pendant le lunch pour gérer votre stress en changeant vos idées et votre environnement, suggère Cara Eagleton, consultante en psychologie du sport, de l'exercice et de la santé. Je donne des cours d'exercice en milieu de travail au dîner et les participants reviennent parce qu'ils disent que cela leur donne autant d'énergie pour terminer la deuxième partie de la journée, ajoute la kinésiologue. Retardez votre café. L'usage veut que l'on prenne un café à la fin du repas pour finir en beauté, quoi. Or, selon les métabolismes, la moitié de la substance est éliminée entre 3 et 8 heures, fait valoir le pharmacien Jean-Yves Dionne. Si vous éliminez rapidement, il se peut très bien que votre café pris après votre dîner ne fasse plus effet dès 15 ou 16 heures. Prendre son café un peu plus tard, ce n'est pas une mauvaise idée si ça vous permet de surfer tout l'après-midi, croit-il. Mais cela dépend de votre métabolisme. En effet, si vous éliminez au contraire très lentement, un café vers 16 heures pourrait ici compromettre votre sommeil. Bougez, il est 15 heures et vous sentez vos paupières s'alourdir. Devant votre écran, les mots s'embrouillent. Il est temps non pas de faire une petite sieste, mais bien de bouger pour se réveiller, lance le kinésiologue Paul Boisvert. C'est ce qu'est en train de faire mon ami Jean-Sébastien à la régie. Au choix, il vous suggère de faire 10 squats, une petite marche rapide dans le corridor, ou mieux, monter et descendre 2 étages d'escalier. À vous de jouer. Ou faites une sieste. Si, pour certains, bouger sera effectivement les réveiller, pour d'autres, une petite sieste, entre parenthèses, power nap de 15 minutes sera nettement plus indiquée. Il n'y a pas 2 personnes pareilles. Et donc, aucune méthode universelle pour négocier quoi que ce soit, signale la directrice du Centre d'études sur le stress humain, Sonia Lupien. Donc, pour la personne qui a besoin de ce sommeil, le power nap fera des merveilles. Pour la speedy comme moi, aller marcher sera la solution, fait-elle valoir. Le mot d'ordre, pas de méthode universelle. Le secret, se connaître et agir en conséquence, finalement. Buvez. Vous pensez peut-être que vous avez un petit creux, mais il se peut fort bien que vous ayez tout simplement très soif. Assurez-vous de boire toutes les demi-heures, conseille aussi l'auteur des conseils d'Hubert, le nutritionniste Hubert Cormier. On confond souvent la faim et la soif car la déshydratation, aussi légère soit-elle, occasionne à peu près les mêmes symptômes qu'une hypoglycémie. Pendant votre magasinage des fêtes, au lieu de traîner des bonbons pour vos baisses d'énergie, pensez plutôt à toujours avoir une bouteille d'eau. Et je poursuis. Collationnez. Il se peut aussi que vous ayez ici un réel creux. D'ailleurs, si vos après-midi s'étirent et que l'intervalle entre votre lunch et votre souper dépasse les 6 heures, la collation de 16 heures est de mise, signale le kinésiologue et coach minceur Paul Boisvert. Pour faire le plein d'énergie, pensez ici à une collation protéinée. Un verre de lait, une boisson de soya, un morceau de fromage ou une poignée de noix. Cherchez le gingembre. Il existe une foule de plantes qui ont des effets énergisants et tonifiants, mais pas stimulants comme le café, nuance le pharmacien et expert en produits de santé naturelle Jean-Yves Dionne. Si vous cherchez des solutions de rechange plus douces à votre double expresso, pourquoi ne pas essayer une boisson chaude au gingembre, par exemple? En cette saison froide, les épices chaudes comme le gingembre, peu importe comment, en tisane ou autre, aident pour l'énergie, dit-il. Et finalement, trouvez un substitut. Si c'est vraiment de la caféine qu'il vous faut, sachez qu'il existe désormais une foule d'autres produits caféinés sur le marché. Eau caféinée, gomme à mâcher, etc. Mais veillez à ne pas dépasser 400 mg de caféine chaque jour car les risques d'infarctus du myocarde sont augmentés. Mais en garde le nutritionniste Hubert Cormier. Alors, lisez bien les fiches nutritives et rappelez-vous que si un espresso ne contient pas plus de 60 mg de caféine, un grand café filtre peut en contenir plus du double. Bref, faites vos calculs et énergisez-vous intelligemment. Voilà, c'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens. Un grand merci d'avoir été à l'écoute. Merci Jean-Sébastien de la Liberté au choix musical, aux chansons de Noël aujourd'hui et à la mise en onde. Ici Hélène Denis, je vous retrouve dans quelques minutes à l'émission Les Paractualités. Sinon, on se retrouve à l'émission Le quotidien des quotidiens si vous ne nous écoutez pas en direct. À bientôt.